chanteront le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir, merci de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette émission mensuelle. Merci à Sidi d'être là une nouvelle fois pour les folles soirées du mercredi soir qu'on a entamées il y a une paire d'années, je ne sais plus quand. Merci à Roselyne aussi d'être des nôtres ce soir parce qu'elle a apporté beaucoup sur un sujet qu'on a abordé au cours de cette soirée. C'est une soirée extrêmement ambitieuse puisque j'ai mis côte à côte trois termes. L'impérialisme, gros sujet à lui tout seul. La guerre, sujet permanent, énorme sujet à lui tout seul. Et le droit, énorme sujet à lui tout seul aussi. Et que j'ai essayé de rassembler dans une seule lecture historique des événements dont nous sommes aujourd'hui les témoins, dans une période qui est celle de l'impérialisme, que je caractérise bien, comme l'a fait avant moi quelqu'un de plus autorisé que moi qui s'appelait Vladimir Ilitch Lénine, hein, donc qui a produit, je crois qu'il a été publié en 1916, c'est ça, un livre qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Et donc, effectivement, il date, lui, des années de cette fin du 19e, tout début du 20e, l'impérialisme dans sa phase la plus importante, c'est-à-dire une phase d'affrontement entre puissances qui veulent se partager le globe, ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'il y a déjà des colonisations qui ont commencé ici et là, mais en gros, c'est à ce moment-là que chacun y va avec des appétits féroces, avec les armements beaucoup plus développés que ceux qui vont attaquer, on le sait pour l'Afrique, on le sait pour l'Asie, etc. C'est ça la phase suprême de l'impérialisme. Tous les impérialistes veulent croquer la planète et mettre à leurs genoux les populations qui ne sont pas dans ce jeu-là encore, qui vont, et ça l'histoire le montrera, sortir de cet état, mais beaucoup plus tard. Et puis, cet impérialisme aujourd'hui n'est pas fini, mais il est dans une autre phase que j'appelle, moi, ça c'est une analyse, la phase terminale, c'est-à-dire qu'on est passé de cette période d'affrontement entre puissances qui veulent se partager le globe et qui le font à coups de canon et sur le dos et sur le sang des gens qui vont aller coloniser ou exploiter, et puis à une période où il n'y en a plus qu'un qui essaye depuis quelque temps maintenant, on peut remonter en gros à l'année 1945 pour faire simple, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'être le seul à maîtriser tout. Maîtriser tout avec les techniques qui sont celles de l'impérialisme, c'est-à-dire avec la guerre en permanence, car cet impérialisme-là, celui des États-Unis, fait la guerre en permanence, et pour s'organiser, pour faire la guerre en permanence, il a des soldats partout, ou presque. Et là où il n'a pas de soldats, il a toujours l'envie d'en mettre. Alors je donne quelques noms au passage. Il n'y a pas de soldats américains sur le sol russe, mais ce n'est pas l'envie qui leur manque. Il n'y a pas de soldats américains en Chine, mais ce n'est pas l'envie qui leur manque. Il y en a quasiment partout ailleurs. Et ça permet, ça explique un budget militaire qui est la moitié du budget militaire de la planète, qui va atteindre 1 000 milliards de dollars par an, c'est-à-dire des niveaux considérables. Et ça permet... C'est une tentative de maintenir cette domination d'un seul sur le monde entier. C'est-à-dire de faire la loi partout, de faire la loi avec toujours le doigt sur la gâchette. C'est ça la situation. Et c'est ce siècle que je vais essayer de parcourir. Alors c'est extrêmement ambitieux, mais je vais essayer de le parcourir avec une lecture qui est nouvelle, puisque je vais essayer de la parcourir en ayant toujours à l'esprit ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Palestine, où s'affronte effectivement l'impérialisme dominant, représenté par les États-Unis et son agent Israël. On peut discuter de mon expression d'agent. La guerre qui est là dans ses modes les plus épouvantables, sous nos yeux. Et puis le droit qui essaye de trouver sa place pour essayer de faire quelque chose. Parce que le droit, et on le verra sur toute cette période que je vais parcourir, le droit arrive toujours un peu après la bataille. C'est-à-dire le droit essaye toujours de dire « Bon, il s'est passé ça, il faut absolument qu'on trouve un outil juridique pour régulariser, pour que ça ne se reproduise pas de la même façon. » Et on va voir que c'est une course permanente, c'est-à-dire l'impérialisme a toujours un pas d'avance sur le droit, et le droit essaye de le rattraper pour dire « non, ne refaites plus ça ». Ne refaites plus ça, et ça veut dire, et c'est une expression que je reprenais hier, une expression qu'on trouve dans les monuments commémoratifs des camps d'extermination ou des camps de concentration nazis, « plus jamais ça ». Plus jamais ça. Bon. Et le droit est là derrière en disant « je vais y arriver, cette fois je vais y arriver, je rattrape, je veux absolument les bloquer parce que sinon ils vont recommencer ce qu'ils viennent de faire et que je n'avais pas prévu ». Parce qu'il y a une extrême inventivité de l'impérialisme. C'est-à-dire, quand il voit qu'une technique qu'il a utilisée devient difficile à pratiquer, il en essaye une autre. Et ça amène à une conclusion qui est celle qui a été proférée par l'ancien directeur de la CIA qui était devenu pendant la période Trump, secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, qui disait, pour résumer l'éducation qu'il avait reçue et l'action qu'il avait menée en tant que directeur de la CIA et en tant que secrétaire d'État, « nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé ». Donc l'absence totale de morale internationale, et j'ajoute bien sûr, au passage, nous avons tué puisqu'on était équipés pour ça.
Oui, et puis le fait que la justice n'est pas rendue, du coup les victimes, au lieu d'être, d'aller dans voilà. vers la réconciliation, voilà. vont vers la vengeance.
Tout à fait.
Et du coup on entre dans un vrai cercle vicieux.
Exactement. Et c'est ça que le droit essaye de faire. Mais on va voir qu'il a beaucoup, enfin l'épreuve est difficile. Donc je remonte au début, c'est-à-dire en gros, Lénine publie son livre en 1916, il a fait le point de la situation, et en fait on arrive en 1917 où il commence à se passer les premiers événements qui concernent la région dont je vais vous parler, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Alors qu'est-ce qui se passe en 1917 ? Ben, de toute façon, dans l'esprit des belligérants qui vont gagner et qui le savent, en gros, en 14-15-16, on ne sait pas trop comment les affaires vont tourner. Mais en 1917, on y voit à peu près clair. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les États-Unis vont rentrer en guerre très prudent parce qu'ils voient que les affaires sont faites. Hein. Mais ceux qui ont mené le gros de la bataille et qui ont laissé énormément de morts sur le terrain, les anciennes puissances coloniales, donc je vais parler de la France et la Grande-Bretagne, se disent maintenant, il faut commencer le dépeçage de l'Empire ottoman. L'Empire en 17, on voit très très bien que l'Empire ottoman, c'est terminé, il va perdre, comme l'Empire d'Autriche-Hongrie, et donc il faut procéder au partage des dépouilles. C'est ça qui se passe en 17. C'est très important pour la suite des événements. Ça prend la forme d'une déclaration très simple de deux ministres. Je ne sais même pas s'ils sont ministres à l'époque, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais les noms contenus sont connus. Il y a M. Sykes, côté du Royaume britannique, et il y a M. Picot, une famille très connue dans la diplomatie française, du côté français. L'accord Sykes-Picot, qui est donc du début de 1917, partage le Moyen-Orient en deux zones d'influence, entre les deux puissances coloniales, qui vont être donc dans le camp des vainqueurs, à un prix considérable, puisque je ne rentrerai pas dans ce cadre, parce que ce n'est pas le cadre de l'émission qu'on a choisi, mais le choc sur les opinions européennes, sur les populations européennes, de cette guerre, de cette boucherie, c'est le terme qui a été utilisé, parce qu'il était ressenti. Enfin, regardez tous les monuments aux morts dans tous les plus petits villages de la France, c'est ça que ça veut dire. Cette boucherie a été un choc culturel considérable, mais Sykes et Picot ne sont pas là pour s'occuper de la boucherie. La boucherie, c'est pour tout le monde, c'est pour le petit peuple. Non, eux, ils sont là pour partager le Moyen-Orient qui va être abandonné, puisque l'Empire ottoman était centré finalement sur Constantinople, mais il avait étendu son pouvoir sur toute la rive orientale de la Méditerranée, sur la Mésopotamie, sur une partie de la péninsule arabique, et c'est ça qui va tomber dans les mains de ceux qui sont là pour se l'approprier. Bon. Et donc ce partage est tel qu'effectivement, il y a d'un côté les territoires soumis à l'influence britannique, de l'autre les territoires soumis à l'influence française. Ce partage se retrouve aujourd'hui dans les frontières de ces régions-là du monde. Il faut bien que nous soyons conscients de ça. C'est donc le partage des vainqueurs qui se partage, le vaincu, les dépouilles du vaincu, qui va être réduit à peu de choses. Donc la Turquie actuelle, qui va un peu s'agrandir après, mais je ne reviens pas là-dessus, avec l'action de Kemal Atatürk, mais c'est ça. Ça donne une répartition très simple. Vous avez d'un côté la Syrie, qui est un tout, parce que le Liban n'est pas encore indépendant. Ça, c'est la France qui fera ça. Et de l'autre côté, la Palestine, puisque la Palestine existe déjà à l'époque. Elle est reconnue comme un État qui doit être libéré, on va y revenir, et puis l'Irak, de l'autre côté, qui est britannique, et pour le reste, on verra. Enfin, là, c'est tout à fait clair, et ça correspond aussi à un partage futur des ressources pétrolières, tout à fait à l'avantage de la Grande-Bretagne, qui a déjà l'Iran sous la main, ce qu'on appelle encore la Perse. Ce partage Sykes-Picot, il est toujours visible sur les frontières aujourd'hui, il faut bien voir ça. Donc 104 ans après, on est encore sur ces mêmes lignes de partage, avec des petites évolutions qu'on va noter, mais qui sont mineures. J'ai parlé de l'indépendance du Liban, mais c'est un petit bout de la Syrie qui est arraché à la Syrie. Mais on ne change pas de ligne de partage, c'est-à-dire le Liban ne passe pas du côté de l'influence britannique, il reste sous l'influence française. C'est un partage à base religieuse qui posera autant de problèmes qu'il en résoudra. Bon, mais ne nous étendons pas trop là-dessus. Et puis, une fois que cet accord Sykes-Picot il est passé, eh bien, on passe aux choses vraiment importantes pour la suite de ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est après la déclaration Sykes-Picot qu'il y a le projet de Lord Balfour. Lord Balfour a été Premier ministre du Royaume britannique et à cette époque-là, en 1917, il est secrétaire au Foreign Office, donc ministre des Affaires étrangères. Et donc Balfour va rédiger un document qui est connu aujourd'hui comme la Déclaration Balfour, qui est un échange de lettres entre lui, donc secrétaire au Foreign Office, et Lord Rothschild, qui est censé représenter la communauté juive internationale. Alors déjà là, on est dans un discours assez étonnant et un peu bizarre du point de vue de la diplomatie, c'est-à-dire quel pouvoir on donne à un monsieur qui est un banquier londonien installé en Grande-Bretagne depuis longtemps pour décider de l'avenir d'une partie d'un continent. C'est considérable, c'est un effet fabuleux. Inouï même du point de vue historique. Bon, toujours est-il que cette déclaration Balfour, elle dit qu'il y aura un foyer national juif sur le territoire de la Palestine. Donc il est bien dit sur le territoire de la Palestine. La Palestine est considérée comme une entité juridique existant dans la partie du Moyen-Orient qui a été confiée, enfin, que se sont attribués plutôt les Britanniques. Ça c'est la vérité, donc un foyer national juif. Et on sait maintenant, parce qu'on est quand même allé lire un peu au-delà de cette déclaration qui elle est rendue publique, qui est connue, on sait, en allant voir dans les archives diplomatiques, qu'il a été écrit ici et là que quand on disait foyer national juif, c'était pour ne pas dire État juif, parce que ça aurait fait dresser les cheveux sur la tête. Et puis, dire à Lord Rothschild, on vous dit qu'il y aura un État juif, le poids en diplomatique juridique de ce genre d'affirmation était très faible. Donc, on reste sur cette ambiguïté du foyer national juif. On n'est pas complètement sorti de l'ambiguïté, on va y revenir tout le long de cette émission. Mais c'est ça le point de départ. Ce foyer national juif, il est là, il est créé, et il va être intégré, parce que dans les préparatifs donc, des traités de paix de Versailles, qui vont se signer l'année prochaine, en 18 et puis en 19, au moment où Wilson viendra orchestrer la mise en œuvre de toute cette réorganisation de cette région-là du monde, c'est pas rien. Deux empires qui s'écroulent au bout de 400 ou 500 ans, avec des petits morceaux qui partent dans tous les sens, c'est pas une mince affaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès 1918-19, dans les traités dits de Versailles, en fait, le chef d'orchestre de la réorganisation territoriale des puissances dans cette région-là du monde, pétrolière entre autres, mais surtout pétrolière, c'est non pas la Grande-Bretagne et la France, mais c'est les États-Unis, qui viennent organiser en disant « voilà, c'est nous, voilà ce qu'il faut faire ». Ils font ça au nom de grands idéaux démocratiques et tout, c'est pas du tout ça. Ils sont en train de prendre la main, c'est-à-dire de dire aux puissances ex-impérialistes, qui le sont toujours, mais qui sont plus si puissantes qu'elles l'ont été, dire, attendez, l'arbitre de tout ça, c'est nous. Les deux grands empires se sont effondrés, vous n'allez pas prendre toute la place parce qu'on est là. On est là, et on est là, mais on va prendre une position qui ne sera pas celle qu'ils prendront en 1945. On est là en pilotage par derrière. C'est-à-dire, c'est nous qui disons ce qu'il faut faire, et puis après, on vous laisse vous occuper des activités sur le terrain. Hein, mais voilà, on dicte nos conditions. Dans ces conditions est intégré le paragraphe sur le foyer national juif. C'est tout à fait clair. Dès le début. dès le début. Et quand les traités sont signés, et c'est surtout vrai du côté des Britanniques qui ont bien compris la chose, il faut intégrer des mentions du foyer national juif dans les textes des accords de Versailles. Et donc, dès le début, dès 1919, le foyer national juif fait partie des objectifs, et donc, sous-entendu, l'État israélien fait partie des objectifs de l'impérialisme anglo-saxon. La France, c'est clair, a plutôt suivi le mouvement qu'elle ne l'a initié. Mais elle est impliquée dans cette opération-là. C'est très important à comprendre, parce que quand l'outil qui va être destiné à organiser la vie internationale à partir de 1919, alors ce sera l'année d'après ou là en 21, ça s'appelle la Société des Nations. La Société des Nations, c'est donc une création des États-Unis d'Amérique dont ils ne feront jamais partie pour dire à tout ce menu frottin des anciennes puissances impériales et à tous les autres qui sont ici et là. Il y a déjà quelques pays indépendants, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a le Japon, il y a l'Éthiopie, etc. Bon, à dire à tous ces pays-là, le chef d'orchestre, c'est nous, la Société des Nations, vous arrangez entre vous, on organise les séances de discussion dans la cour des petits, nous, on regarde ça de loin. Mais c'est déjà nous qui organisons le jeu. Ça, c'est tout à fait important. Et donc ce jeu, il est organisé avec, dès 1921, l'inclusion du foyer national juif dans la politique générale de la Société des Nations. Alors ça, c'est pas beaucoup dit, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que ce projet de foyer juif, c'est-à-dire d'État juif, il est déjà dans le projet de la Société des Nations. Il y a été mis par les anglo-saxons, et je vous dis, les Français se sont laissés promener. Alors, ils se sont laissés promener, c'est-à-dire que comme ce n'était pas dans la partie que Sykes-Picot leur avait attribuée, puisque ce n'était pas en Syrie, ce n'était pas au Liban, ça ne les concernait qu'indirectement. C'était en Palestine, donc dans la zone qui était la zone d'influence britannique. Ça, c'est très très important à comprendre pour la suite. Hein. Parce que la suite, c'est qu'une fois que ce foyer national juif est entériné et patronné par les États-Unis, ça permet au mouvement sioniste qui existe, il est antérieur parce qu'il est derrière. Enfin, la position de Lord Rothschild, ce n'est pas celle qu'il a inventée tout seul, c'est en fait la position d'un certain nombre de bourgeois juifs, hein, c'est pas des travailleurs de base juifs, des pays d'Europe de l'Est, pas du tout de la Grande-Bretagne ni de la France. C'est une position de bourgeois juifs qui s'explique historiquement par le fait que c'est dans les pays d'Europe de l'Est, et en particulier dans la Russie tsariste, que les juifs ont le plus souffert de la répression et même de l'élimination. Les pogroms, ça ne s'est pas passé en Grande-Bretagne, ça ne s'est pas passé en France, ça s'est passé là-bas, à l'Est. Et donc, les gens qui portent le mouvement sioniste sont des gens qui portent aussi cette expérience historique très dramatique, c'est-à-dire d'élimination physique. Hein, c'était ça, ce que les pogroms, l'élimination physique des juifs dans les pays où ils étaient installés et où ils n'avaient pas le droit de cultiver la terre, où ils n'avaient pas le droit de faire ci et cela, et tout, ils étaient maltraités. Donc ce sentiment de souffrance des juifs, il existe. Par contre, il n'est pas porté. Quand Weizmann dit qu'il est sioniste et fait le projet d'État juif, lui, ça ne le touche pas. Lui, c'est un grand bourgeois qui circulera ici et là et tout. Mais il touche en profondeur la population juive de cette Europe orientale qui a énormément souffert. Et qui, de fait, une partie de cette population juive de l'Europe orientale et de la Russie tsariste fera partie des cadres du mouvement révolutionnaire bolchévique. Il faut le bien savoir. Quand on a dit judéo-bolchévique dans une certaine tradition de la droite française, ça correspondait à cette réalité-là. C'est-à-dire que les juifs ont été émancipés par la révolution russe. Et ils savaient d'où ils venaient. C'est-à-dire, juste avant 17, ils savaient ce qu'ils avaient souffert. Et quand donc 17 arrive et que les bolcheviks prennent le pouvoir, c'est la libération des juifs. C'est leur possibilité de s'exprimer librement. Mais ça, c'est autre, ça n'a rien à voir avec l'État, le foyer national juif. Bon. Donc il est là. Il est dans les textes. Il a été acquis. On fait avec ce foyer national juif. Et puis, petit à petit, les gens qui habitent, les Palestiniens, puisqu'on parle d'eux, les Palestiniens qui voient arriver des nouveaux, puisqu'on leur dit qu'ils ont bien compris que c'était là où on devait les accueillir et les installer. Ils les voient arriver. Et puis, ils les voient arriver avec... bon, c'est des gens qui ont souffert, on ne leur veut pas de mal et tout, mais quand même, ils arrivent avec de drôles de méthodes. Ils arrivent avec de drôles de méthodes. Et ça va à un point, alors je ne rentre pas trop dans ces détails-là, mais ça va à un point où, à un moment donné, la population palestinienne va dire « Mais ces gens-là, ils sont un peu pénibles, c'est-à-dire ils sont en train de venir nous prendre notre terre. » Et il y aura... Et il y aura, entre 38 et 39, une révolte arabe contre l'arrivée des colons juifs. Parce qu'ils se sont comportés, dès le début, en colons, avec des groupes terroristes, dont feront partie certains futurs premiers ministres israéliens, qui sont là pour prendre la place. Bon, ça, la masse palestinienne, le peuple palestinien l'a vécu. La révolte palestinienne de 38-39, elle a été réprimée brutalement par l'armée britannique, mais elle a existé. Parce que la présence physique de plus en plus nombreuse et de plus en plus violente des colons juifs, c'était déjà des colons juifs qui arrivaient, même si c'était des gens qui avaient été extrêmement malheureux avant. Mais de toute façon, ils n'étaient pas malheureux parce que les paysans palestiniens leur avaient fait des misères. Les paysans palestiniens ne leur avaient rien fait, jamais. Et donc ces paysans palestiniens disent « Bon, ils ont peut-être souffert, mais pourquoi ils viennent me prendre ma terre, mes oliviers, etc. » Et ça, c'est vivant dès cette période-là dans la population palestinienne. C'est ça qu'il faut bien voir. Et la Société des Nations, ben, elle laisse faire, puisqu'en fait, elle a entériné dans les documents initiaux qu'il y aurait un foyer national juif. Elle sait très bien que ça sera un futur État juif, mais elle laisse faire. Et puis en plus, la Société des Nations va s'avérer un outil pas très efficace. Et puis les gens dangereux vont la quitter, comme le régime nazi, etc. Donc elle laissera un assez mauvais souvenir comme n'ayant pas fait grand-chose de positif. On peut voir... A contrario, je ne défends pas le colonialisme français, mais quand en 1936, la chambre du Front populaire dit « mais il serait normal qu'on donne l'indépendance à la Syrie », la chambre du Front populaire ne fait qu'analyser clairement les missions qui lui ont été confiées par la Société des Nations, de la même façon que c'est la même mission qui a été confiée au Royaume britannique, c'est-à-dire le mandat britannique sur la Palestine, comme le mandat français sur la Syrie, sont destinés à l'émancipation de pays qui... Alors, je prends l'image d'un jeune adolescent à qui on tient encore un peu la main en disant « mais ça y est, tu y es presque, et tu vas devenir indépendant ». Et c'est très intéressant à rapprocher des textes sur l'émancipation et sur le mandat, parce que ces textes sur le mandat, qui sont des actes officiels de la Société des Nations, font une différence... racialement tout à fait inacceptable, en disant « eux, ça va, ils sont assez grands, on peut les lâcher. Par contre, les pays d'Afrique subsaharienne, il n'y a rien à en faire. » Et ça, c'est écrit dans les textes de la Société des Nations. Donc c'est une émanation d'une opinion, d'un racisme qui est celui de l'époque. Mais il faut bien le connaître. C'est-à-dire, ça va. Les Syriens, les Palestiniens et tout, on les connaît, on a de bonnes relations avec eux, etc. Et puis c'est quand même un endroit stratégique. Mais alors, tous ceux qui sont dans l'Afrique subsaharienne... Il n'y a rien à en faire. Ils ne sont même pas dans l'adolescence. Ils sortent à peine du berceau. C'est d'un mépris. Et ça, c'est dans les écrits. Je ne vous les lis pas, mais croyez-moi, c'est dans les écrits officiels de la Société des Nations. Ceux-là, il n'y a rien à en faire. Ils sont bien, bien loin. Ils sont encore dans l'enfance. Donc, il n'y a même pas à les favoriser, à leur donner l'indépendance ou à leur donner les moyens d'une future indépendance dans un siècle, deux siècles. C'est même pas dit. C'est considéré comme impossible. Ça, c'est... Il faut bien se pénétrer de ça. Bon, alors après, on en arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je finis sur ma chambre des députés du Front populaire qui dit qu'il faudrait donner l'indépendance à la Syrie. On les connaît maintenant. En plus, on a vu qu'il y avait la révolte arabe. Enfin, et ça ne se passe pas très bien. Et puis, on a rencontré des gens qui sont capables de gérer un État nouveau, etc. Il faudrait leur donner. Alors, la chambre du Front populaire vote la décision de donner l'indépendance à la Syrie. Et puis, le texte n'est jamais appliqué parce que la Chambre du Front populaire va céder la place à Daladier, gouvernement qui prépare la guerre, qui est beaucoup plus à droite, etc. Et la décision de donner l'indépendance à la Syrie ne sera pas prise. Alors, c'est les préparatifs de guerre et tout. C'est intéressant de le noter parce qu'on avait affaire à deux attitudes. L'attitude française, qui a avorté, mais qui était plutôt positive, et l'attitude britannique, c'était pas du tout ça. L'armée britannique s'est occupée de réprimer sauvagement la révolte arabe, palestinienne, donc contre la présence des colons juifs. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de colons juifs en Syrie, puisque c'était pas pour nous, c'était pour le sol, les colonies britanniques. Nous voilà donc arrivés, je regarde l'heure qui passe, nous voilà donc arrivés à la Deuxième Guerre mondiale qui commence. qui commence. Et donc là, on a affaire. Donc cette Société des Nations a créé quand même un organe qui s'appelle la Cour internationale de justice et de droit, CIJD, qui sera reproduite quasiment à l'identique sous la forme de la Commission internationale. Au Cour international de justice, je vais le dire, en 1946. C'est pratiquement les mêmes statuts à quelques virgules près, qui n'aura pas servi à beaucoup de choses, mais c'est un outil qui paraît utile pour la suite des événements. Bon, je passe sur la Seconde Guerre mondiale, ou qui se passe sur le terrain, donc ce terrain-là, entre autres, puisqu'il y a en particulier, mais ce n'est pas l'objet de cette émission, des attitudes différentes des gouverneurs français et des gouverneurs britanniques dans les deux provinces colonisées, la Palestine, enfin sous mandat, la Palestine d'un côté, la Syrie de l'autre, et on en arrive à la conclusion de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors là, il se met en place une autre institution qui est destinée à reprendre la mission de la Société des Nations, mais qui, à la différence de la Société des Nations, est mise en place avec les États-Unis qui en sont partie prenante et qui démarre sous la forme d'une annonce des principes qui sont les principes notés dans la Charte des Nations Unies. Charte des Nations Unies dont le texte est encore d'une grande qualité et d'une grande visibilité aujourd'hui et peut être applicable s'il l'est. Donc il n'y a pas beaucoup à dire sur les principes de la Charte des Nations Unies aujourd'hui. Autant il y a à dire, j'y reviendrai, sur la pratique des Nations Unies aujourd'hui. Mais la Charte est un document qui fait consensus à l'époque et qui est d'une bonne qualité et dont on peut tirer énormément de bonnes choses, si on a envie de le faire. Ça, c'est tout autre chose. Cette Charte des Nations Unies donc, revient sur ces questions donc des territoires sous mandat, puisque le mandat devait se terminer, et il est dit effectivement en 1945-1946, on va arrêter le mandat britannique sur la Palestine et le mandat français sur la Syrie. La France ne fait pas de difficultés, la Syrie devient très très vite indépendante, il n'y a pas de souci. Côté britannique, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué puisque là, il y a un conflit qui a été illustré par les révoltes arabes de 1938-1939. Il y a bien effectivement une population palestinienne qui se sent envahie par les colons juifs. Et puis les colons juifs qui ont montré qu'ils étaient prêts par tous les moyens à prendre leur place sur la terre palestinienne. Alors, dont ils disent, bien, vous connaissez le discours, c'est notre terre historique, etc. Bon, je ne rentre pas là-dessus, on a déjà beaucoup parlé là-dessus. Mais donc, l'affrontement, il est prêt. Que fait l'ONU à ce moment-là? Alors, c'est un moment très, très important parce qu'il a été assez mal expliqué. L'ONU se trouve avec une situation donc éclair côté syrien. La Syrie devient indépendante et elle vote à l'ONU, elle est admise à l'ONU, elle vote, etc. Et puis, du côté palestinien, l'ONU sent bien qu'il y a un problème et l'ONU va faire ce qu'elle faisait, pas plus parce que ce qu'on a expliqué, ça a été mal expliqué avant ça. C'est-à-dire, l'ONU n'a pas destiné la création de deux États, ce qui est le discours qu'on tient assez généralement. L'ONU a décidé de créer un État palestinien et un État juif. C'est pas vrai. L'ONU établit un plan de partage en disant « Je prends acte du fait que là, il y a deux populations qui sont en concurrence sur le même terre. Il faut découper ça. » pour que chacun trouve sa place dans ce bout de terre, puisque maintenant ils sont deux. Donc l'ONU acte le fait que la colonisation juive, elle a porté ses fruits. Il y a, en gros, à l'époque, au moment où l'ONU délibère, on est en 47, 33% de la population de ce territoire palestinien qui est juive, et donc 66% qui est palestinienne. Bon. Ça, c'est le point. Le deuxième constat, qui est un peu plus discutable déjà, mais c'est un mauvais présage pour la suite, c'est qu'on on va donner à ces 33% 52% du territoire. Ah ouais, c'est ça. Là, on commence déjà à déraper. On commence déjà à déraper. Mais alors, comment ça s'explique? Alors, comment ça s'explique? Parce que le consensus qui se fait entre vainqueurs. Alors, le consensus des vainqueurs, j'explique ce que c'est. C'est le consensus entre les quatre vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ce qui a paru important à l'époque pour les États-Unis et les Britanniques qui étaient favorables à ce découpage et à cette faveur faite à la colonisation israélienne, c'était que l'URSS était d'accord. Alors, l'URSS était d'accord. Comment l'expliquer? Alors, il y a beaucoup d'explications possibles, mais l'explication était que l'URSS, d'une certaine façon, se sentait porteuse du passé tsariste, non pas qu'elle l'approuvait parce qu'elle l'avait combattu, de quelle façon on le sait, mais comprenait mieux que d'autres ce qu'était la volonté des Juifs de vivre en paix sur un territoire où on leur laisserait la paix, parce qu'ils avaient vu très concrètement, les soviétiques, les bolcheviques en 17 et après, ce que c'était, et avant surtout, ce que c'était que la condition juive dans des pays où il y avait les pogroms, etc. Et donc, ils étaient plus, j'allais dire, à la limite, plus indulgents par rapport au sionisme que ceux d'Europe de l'Ouest qui ne se rendaient pas compte de ce que ça voulait dire. Bon. Ben, ça, je ne veux pas m'attarder là-dessus, on pourrait en parler très très longtemps, mais toujours est-il que le vote soviétique fait pencher la balance. Alors qu'il y a un certain nombre de pays qui disent non, là on est parti, l'ONU est en train de préparer un découpage, ça va être compliqué parce qu'il y a des gens qui étaient chez eux, maintenant on en amène de nouveaux qui ne sont pas chez eux, ils clament qu'ils sont chez eux parce que c'est écrit quelque part dans un texte, mais c'est quand même pas très très solide. Et donc là, il y a des États qui disent non, là c'est dangereux. Mais ils ne constituent qu'une minorité des votants à l'époque à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'y a que 50 à peu près États à cette époque-là, donc qui sont à l'Assemblée générale des Nations Unies. J'en relève deux parmi ceux qui se sont opposés en disant « là, terrain dangereux, terrain glissant, on va à la catastrophe ». L'Inde, hein, on est 4 ans, même pas un an après l'indépendance de l'Inde, qui sait ce que c'est que l'indépendance, qui sait ce que c'est que diviser des musulmans et des non-musulmans sur une base religieuse, hein, relisez Les enfants de minuit de Salman Rushdie, vous vous rendrez compte, et il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et puis la Syrie, qui dit oulala, et puis la Syrie, elle est sur place, elle sait ce que ça veut dire. Elle l'a observé, ça se passe sous son nez, tout ça. La Syrie dit non, là, on est en train de prendre une fausse route, ça va mal se passer. Ça va mal se passer en permanence. Et ça se passera mal en permanence. C'était y voit clair, mais l'ONU met sur la table ce plan de partage. C'est pas plus que ça. C'est pas une décision de l'ONU créant deux États. C'est une décision, c'est un plan de l'ONU qui vaut ce qu'il vaut, qui est soumise aux États membres de l'ONU à l'époque, qui dit ben voilà comment on pourrait partager, avec déjà, je l'ai noté et j'insiste, quand même un petit coup de pouce en faveur du côté sioniste. Hein, 33% de la population, 52% du territoire. Donner la majorité à des gens qui ne sont pas sur le sol. Bon. Là, déjà, on est sur un chemin glissant. Chemin tellement glissant que les sionistes vont tout de suite le prendre, puisque on en est là, il y a juste une carte. Il n'y a pas deux États créés. Il y a des groupes israéliens, sionistes, juifs, qui ont commencé à s'organiser, qui vont être aidés militairement par la Grande-Bretagne. Et à un moment donné, la Grande-Bretagne va annoncer qu'elle allait partir. En disant, moi, j'ai fini, j'étais mandataire en Palestine, c'est fini le mandat, maintenant les États sont indépendants, et qui va laisser faire. Qui va laisser faire au point que quand, en mai 1948, Israël se déclare tout seul en tant que nouvel État, il le fait en ayant pris toutes les armes de l'armée britannique qui était sur place. C'est-à-dire avec un avantage militaire considérable, et puis surtout des groupes qui s'étaient préparés, qui s'étaient organisés, des groupes donc de terrorisme armé, qui vont devenir des groupes de libération nationale de l'État d'Israël, si on peut appeler ça comme ça, hein, mais qui de toute façon étaient prêts, équipés, entraînés, et qui donc étaient prêts à une guerre contre les Palestiniens, qu'ils vont mener. Cette guerre, ils vont la mener avec tous les moyens matériels qu'ils ont, le soutien de beaucoup de pays, en particulier des États-Unis. Et ils vont la mener sous la forme d'une expulsion de tous les paysans palestiniens qui voudraient rester chez eux. Là, sur la partie du territoire correspondant au découpage, donc sur ce projet de l'ONU, Israël va dire maintenant c'est chez moi, l'État d'Israël, il est là. Il est là puisqu'il y a une carte qui a été dessinée par l'Assemblée générale l'année dernière. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on dit ce territoire, il est à moi, eh bien on en chasse tous ceux qui ne devraient pas y être. Ça s'appelle la Nakba, c'est-à-dire 800 000 Palestiniens qui sont mis à la porte de chez eux. On leur dit, ben, vous avez un territoire là, hein, même si vous n'avez pas d'État, tant pis pour vous, là-bas c'est chez vous. Hein. Bon. Donc il faut que les choses soient bien bien claires là-dessus. Il y a création par l'ONU de deux États, il y a création d'un partage, une proposition de partage qui est reprise par l'État d'Israël qui tout seul dit « là, je suis chez moi ». Quant aux Palestiniens, ils n'ont pas la capacité de dire qu'ils sont chez eux. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et l'ONU ne dit rien. L'ONU ne dit rien. Et l'ONU prend le chemin qu'elle va poursuivre jusqu'encore aujourd'hui sous nos yeux, c'est de dire, ah ben, il n'y a pas d'État palestinien, bon ben, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Les autres, ils sont organisés, ils sont forts, ils sont en train de devenir riches, ils ont des soutiens importants ici et là, ils ont les États-Unis avec eux, et ben, eux, ils avancent, les autres, ils n'avancent pas. Débrouillez-vous. C'est très très cruel hein, comme position, mais c'est ça. Hein. Vous n'avez pas été capable de faire un État, ben, tant pis pour vous. D'abord, vous n'êtes que des paysans là, sur vos terres avec vos oliviers et tout. Les autres, ils ont réfléchi, ils ont de l'argent, ils ont des armes, ils ont les États-Unis derrière. De toute façon, c'est les États-Unis qui sont les maîtres du monde et donc ils sont dans le sens de l'histoire.
Excuse-moi, mais l'État palestinien, il existe bien.
Alors, non, juste, alors à l'époque, il n'existe pas. À l'époque, il n'existe pas. Alors, il y a tout un mouvement qui va avoir lieu après et qui a commencé à aboutir, c'est-à-dire qu'on a fini par reconnaître, alors c'est passé par la Cour de justice internationale, qu'il y avait effectivement, dans ce découpage qui prévoyait qu'il y aurait un État, il y avait bien des gens qui représentaient la Palestine. Alors, c'est un quasi-État, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme un État ne participant pas à l'ONU, mais aujourd'hui, mais il a fallu le temps, c'est-à-dire que ça remonte aux années 70. Tout ce temps-là, ça a été on divise, on tue, on expulse, etc., et l'État n'existe pas. Aujourd'hui, il est reconnu au point que dans les organes judiciaires internationaux, on peut accepter une plainte ou une demande de l'État de Palestine. Même si par ailleurs, il n'a pas les moyens de faire une politique, puisque de toute façon, le territoire de cet État est un territoire colonisé par un autre État. Donc ça lui empêche d'exécuter. Il n'a pas de souveraineté. Il existe juridiquement. On connaît, c'est un État qui devrait, qui a un avenir, disons, pour être simple, mais il n'a pas de souveraineté. Donc pour l'instant, il est colonisé. Et donc on doit le traiter comme un peuple colonisé. Ça, on en est là, donc, au sortir de la guerre, et voilà bien la situation telle qu'elle est, telle qu'il faudrait bien la comprendre. Hein. Donc il n'y a pas eu création de deux États par l'ONU, il y a eu ce projet de partage, okay. Hein, et puis ensuite l'Israël qui dit « moi j'y vais, hein, de toute façon j'ai des arrières, j'ai des moyens, etc. » Et je continue sur ma lancée, parce qu'il faut savoir que les Ben Gurion, les Golda Meir et tout, étaient membres des groupes terroristes. Faut pas... Alors, on sait, l'histoire montre effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans des groupes terroristes, en particulier dans les phases de libération nationale de peuples colonisés, qui deviennent après des dirigeants tout à fait respectables. Mais ils ont été obligés de passer par la lutte armée. Ça, c'est parfaitement clair. Hein. Mais là, c'est un peu plus que ça, parce qu'ils sont du côté de l'impérialisme. Ils sont du côté des États-Unis. Les États-Unis qui sont en train de mettre la main sur ce Moyen-Orient pétrolier en particulier, alors avec des accords qui ont été passés par Roosevelt avec l'émir d'Arabie Saoudite pour se mettre la main sur le pétrole, et puis la main sur le canal de Suez. Alors je rappelle à cette occasion l'épisode très intéressant historiquement de l'opération de Suez, c'est-à-dire en 1956, la Grande-Bretagne et la France, qui sont encore les maîtres financiers qui gèrent le canal de Suez, eau internationale sur le sang égyptien, sont mis à la porte par le colonel Nasser et par l'Égypte indépendante, qui dit « maintenant, le canal, je le nationalise ». Alors ça passe très très mal, ça passe très très mal parce que pour les Anglais, c'est une atteinte à la veine jugulaire de l'Empire britannique, parce que l'Empire britannique, il est au-delà du canal de Suez, et donc il faut surtout pas que ce soit. Et puis la France réagit assez différemment, enfin pour d'autres raisons, parce que la France, elle dit, en fait, la révolution algérienne, elle est soutenue par les Égyptiens et par Nasser, et sans le soutien de l'Égypte, le FLN ne gagnerait pas la guerre. Donc, deux bonnes raisons différentes hein, de dire le canal de Suez, on va le reprendre, on ne veut pas accepter la nationalisation. Qui se trouve l'allié de ces deux ces colonisateurs vieillissants et affaiblis? L'État d'Israël, qui met la main à la pâte, qui participe à la guerre. Il se dit comme ça, je me mets du côté de ces gens. Et en fait, cette guerre va s'arrêter, c'est très très important à rappeler, cette guerre s'arrête parce que les États-Unis, donc c'est Eisenhower qui est président à l'époque, disent à la France et à la Grande-Bretagne, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, ça veut dire, maintenant c'est nous les patrons, arrêtez vos petits jeux de vieux coloniaux, etc. Non, non, laissez ce secteur-là du monde tranquille, on s'en occupe nous-mêmes, c'est nous les patrons, on est d'accord aussi avec l'URSS qui ne veut pas que ça dégénère comme ça, qui n'est pas d'accord avec les vieilles puissances coloniales, c'est terminé, rentrez chez vous. Et effectivement, la queue basse, j'allais dire, la France et la Grande-Bretagne rentrent chez eux. Et le canal reste nationalisé. Ça, c'est le contexte. En même temps, qu'est-ce qu'il arrive à tous nos pauvres Palestiniens ? Alors, beaucoup de choses. Mais ce qui s'est passé, alors je m'arrête, on est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc j'essaye de tracer un tableau de la situation au niveau de la guerre et au niveau du droit. Parce que ça a beaucoup bougé, puisqu'on est sorti donc d'une période, donc les traités de Versailles, où pratiquement on ne réglait que des questions entre puissances européennes. Parce que la Première Guerre mondiale, elle est mondiale, mais pas très profondément. Il y a beaucoup de continents, il n'y a pas de guerre du tout sur le continent américain, il n'y a pas beaucoup de guerre en Asie, pratiquement pas beaucoup de guerre en Afrique, elle est profondément européenne. Bon. Et c'est pour ça que les États-Unis ont dit à la Société des Nations, nous on ne vient pas parce que finalement c'est vos histoires entre Européens, entre Autrichiens, Hongrois, Turcs, etc. Organisez-vous. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, on a l'émergence de pays nouveaux qui deviennent indépendants et qui se décolonisent. Et donc, l'ONU est obligée de tenir compte de ça. Hein. L'Indonésie se décolonise, l'Inde se décolonise, la Chine va arriver en 1949 à s'extraire du colonialisme, et des tas d'autres vont suivre. Bon. Donc, la situation est complètement différente. Et donc, le droit lui-même... va s'adapter. Le droit lui-même va s'adapter et va intégrer, donc, à côté de la charte de l'ONU et de l'ONU qui s'agrandit, puisque tout État nouveau indépendant devient membre de l'ONU, toute une série de textes qui sont destinés à organiser la guerre. Alors, j'utilise le terme avec précaution, mais au fond, quand on voit à quoi sert le droit international en cette matière, il ne sert jamais qu'à organiser la guerre. Alors vous allez dire, ça fait beaucoup de peine de dire que le droit ne sert qu'à organiser la guerre. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire le droit ne sert qu'à éviter qu'elle prenne les pires formes. Alors les pires formes, alors ça c'est, il y a deux héritages, ce qu'on appelle les conventions de Genève. Les conventions de Genève sont mises au point à la fin du XIXe siècle, sont adaptées et modernisées après la Première Guerre mondiale et le sont à nouveau après la Deuxième Guerre mondiale. Alors que font les conventions de Genève ? Ben, c'est très simple, c'est facile de simplifier comme ça en quelques minutes, mais enfin, elles organisent la vie des combattants. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire dire les combats se passent classiquement entre des armées, où il se passe maintenant, depuis la fin de la colonisation, entre des armées de libération nationale et des armées d'occupants, de colonisateurs, mais il faut éviter que ça prenne des formes trop horribles, trop catastrophiques, trop saignantes, etc. etc. Bon. Et donc il va se mettre en place des nouvelles conventions de Genève, adaptées à la situation nouvelle, mais qui sont destinées surtout à éviter que les victimes soient principalement des victimes civiles. C'est-à-dire, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait de plus en plus de victimes civiles, alors que les conventions de Genève, les premières, donc celles de l'entre-deux-guerres, ne concernaient que les combattants, les prisonniers de guerre. On ne doit pas tuer un prisonnier de guerre, on doit le manger, on doit lui donner à manger, on doit... voilà, pardon le lapsus, ça fait rire. On doit lui donner à manger, tout. Voilà, le statut du prisonnier de guerre, il vient de ces conventions de Genève. Et en fait, il faut voir ce que sont ces conventions de Genève. Ce n'est pas du tout un organe international, puisque l'inventeur même des conventions de Genève, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Et encore aujourd'hui, si vous cherchez des documents sur les conventions de Genève, vous allez les trouver sur le site de la CICR, hein, sur la Croix-Rouge. Mais c'est considéré comme une des bases du droit de la guerre aujourd'hui. Ce droit de la guerre qui, comme je l'ai dit initialement dans l'émission, est toujours en train de courir après de nouvelles formes de guerre pour éviter que ça dégénère. Alors ça, c'est le premier travail, donc dire aussi, donc dans les luttes de libération nationale, il faut que les combattants qui mènent la lutte de libération nationale soient respectés. Ce sont des combattants comme d'autres, même s'ils n'ont pas d'uniforme, même s'ils sont mal habillés, etc. Tout ça, c'est des combattants de la libération nationale. De cette façon, par exemple, le Che Guevara et Fidel Castro, quand ils libèrent Cuba, ils sont des combattants de la libération nationale, donc ils sont couverts par les accords de Genève, les conventions de Genève. Et il y en a des tas d'autres, je les cite parce que l'idée me traverse comme ça. Bon. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'il y a aussi un progrès technique et technologique. Fait la guerre de 14, on sait à peu près par quels moyens elle a été faite, et puis on s'est aperçu que la guerre suivante, elle a été faite avec d'autres moyens techniques. Militaire. Bon. Et là, il faut commencer à dire, il faut éviter l'utilisation d'armements trop effrayants. Et donc, le droit de la guerre va consister à dire, il y a des armements, enfin, il ne le dit pas comme ça, mais en gros, le résultat est là. C'est-à-dire, le droit de la guerre, c'est de dire, ces armements-là, ça fait partie de la guerre. Vous pouvez y aller, hein, fusil mitrailleur, canon, etc., c'est bon. Ce qu'il ne faut pas, c'est le reste. Alors, le reste, je vais vous en donner une liste rapide, mais c'est très intéressant de s'en rendre compte. De s'en rendre compte, puisque c'est réglé par toute une série d'accords, de ce qu'on appelle des conventions, concernant toute une série d'armes, alors qu'on a appelé après de destruction massive. Alors ça ne s'est pas dit comme ça dans les textes, mais en fait vous avez toute une série de conventions qui sont destinées à dire, bon, il y a des armes qu'il faut éviter d'utiliser, parce que là vraiment, d'abord, ce n'est pas limité aux militaires, parce que ça se diffuse partout, je pense à l'arme atomique, hein, on a vu, Hiroshima, c'est pas des morts militaires, Nagasaki non plus, Dresde en 45 en Allemagne, ce n'est pas des morts militaires, et tout le reste. Hein. Les gaz de combat, ben ça se disperse et donc il y en a pour tout le monde. Et donc il va sortir toute une série de conventions sur les armes inutilisables, enfin, qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Alors on peut continuer à faire la guerre, on peut continuer à s'entretuer à coups de fusil mitrailleur ou de canon, mais il ne faut pas utiliser ni les armes nucléaires. Alors c'est le traité de non-prolifération, puis le traité d'interdiction des armes nucléaires qui lui a fait suite, qui est beaucoup plus récent. Il y a le traité d'interdiction des armes biologiques, il y a le traité d'interdiction des armes chimiques, et il y en a d'autres. Alors ceux-là sont les plus connus, les plus importants. Il y a le traité contre l'utilisation des mines antipersonnelles. Ça, c'est ce qu'on a appris au Cambodge et au Vietnam. C'est-à-dire, vous mettez des mines pour que les combattants adverses sautent et soient tués, mais après, quand la guerre est finie, ce qui arrive aussi à un moment, quand la guerre du Vietnam est finie, mais pendant des dizaines d'années, les Cambodgiens vont perdre des jambes parce qu'ils circuleront dans des champs. Bon, et le déminage est une opération extrêmement lourde, coûteuse, etc. Bon, que des petits pays pauvres comme ça ont de la peine à mener. Bon, il y en a une aussi sur les atteintes à l'environnement. On n'en parle pas beaucoup. Il y a une convention sur les manipulations de l'environnement. Alors on n'en parle pas beaucoup, encore que ça existe, c'est une menace qui est reconnue. Si par exemple on arrive à déclencher des tremblements de terre, des tsunamis, alors un tsunami c'est assez facile à imaginer, vous faites péter une bombe atomique sous un océan à quelque endroit, vous êtes sûr qu'il y a un tsunami dans tous les pays de la région. Bon, alors vous direz que c'est un tsunami. Bon. Et donc c'est réglé, il y a aussi une convention contre les utilisations, les manipulations de l'environnement à des fins létales, pour tuer des gens, hein, pour affaiblir un pays. Tout ça existe. Tout ça existe et donc effectivement, et c'est douloureux à dire, mais je le dis, il n'y a pas interdiction de la guerre, il n'y a pas de traité d'interdiction de la guerre. Ça n'existe pas aujourd'hui. On peut rêver que ça existe un jour, mais on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'on est dans une époque impérialiste où il y a des gens, je le disais en début d'émission, qui continuent à acheter des armes, à fabriquer des armes, à créer des armes toujours plus létales, toujours plus dangereuses à chaque progrès de la technologie et qui ont des armées dans le monde entier, sauf exception quelques pays opposés. Bon, donc la guerre n'est pas arrêtée, elle est mieux cadrée, c'est-à-dire les pires horreurs de la guerre sont évitées, mais la guerre reste horrible. Elle reste horrible et elle continue puisque de toute façon, au sommet de la pyramide d'État, il y a un État qui veut être le maître du monde, donc il veut gagner. Et cet État, il veut tellement être le maître du monde et vouloir gagner qu'il est sans arrêt en campagne militaire. C'est le seul État du monde qui a toujours une troupe. Enfin, il ne se passe pas d'année sans que les troupes américaines interviennent ici ou là. Alors, quelquefois, c'est très très léger parce que c'est face à un objectif tout petit ou un tout petit pays. Quelquefois, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est l'Irak, c'est l'Afghanistan, on sait tout ça. Donc voilà aussi un cadre juridique, c'est-à-dire il y a des conventions pour l'interdiction des armes les plus dangereuses, les pires, hein. Élimination du pire. Voilà. Alors le droit est là, il est pas, il va pas au-delà de ça, éliminer le pire. Et ça prend des formes différentes selon les types de conventions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a qui sont relativement élaborées. Alors, tout ça va se signer beaucoup dans les années 70, etc., hein, au moment où, effectivement, il y a un dialogue qui commence à avoir lieu entre l'URSS et les États-Unis, dialogue qui a toujours eu lieu par rapport à l'arme atomique, qui touche à d'autres domaines, et il y a une avancée. Hein. Les armes chimiques, les armes biologiques, les traités de non-prolifération, les traités sur le nucléaire, c'est ça, dans ces années-là que ça se signe, ça correspond à une période de calme dans les relations internationales, et c'est surtout l'intégration par les États-Unis du fait qu'ils ont perdu la guerre du Vietnam. Et donc, à ce moment-là, ils disent, bon, il faudrait peut-être essayer de modérer nos actions, trouver des modus vivendi avec ce qui reste l'adversaire à l'époque, l'URSS. Et donc, on se met à signer. Mais après, ces traités-là, ces conventions, comme on les appelle, valent pas grand-chose dans la mesure où, sauf pour une, sur laquelle je vais m'arrêter, il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire, vous pouvez signer une convention sur l'interdiction des armes biologiques, vous dire c'est interdit, alors tout, alors c'est très très détaillé, c'est interdit la recherche, la fabrication, le transport, la vente, enfin toutes les formes possibles, les armes chimiques, les armes biologiques sont interdites. Mais en pratique, dans le texte de cette convention, il n'y a aucune sanction. C'est-à-dire si vous, quand un État constate qu'il y a un autre État qui ne respecte pas les dispositions de la convention qu'il a signée, ben il va aller... J'allais dire, il va aller pleurer auprès du secrétaire général de l'ONU en disant « Monsieur, lui, il ne respecte pas le texte. Mmh. » Alors on va rentrer dans un processus d'enquête, de contre-enquête, etc. Et en général, il faut le dire, parce que je parlais des difficultés de fonctionnement interne de l'ONU, ça s'enlise dans des débats d'experts, ça ne débouche pas sur grand-chose. Alors le seul cas où il y a un organe qui a été créé pour vraiment faire le travail de surveillance et de dire... qui a des armes de ce type-là, c'est la convention sur la guerre chimique, qui se signe tardivement, puisque c'est à la fin des années 90 qu'elle se signe. Et là, il est dit qu'il y a un organe qui est constitué, l'organe pour la surveillance des armes chimiques, avec une possibilité, donc partout, pour tous les signataires, de demander une inspection dans un autre pays pour voir où sont ces armes chimiques, s'il en a, de quel type, etc. Et en même temps, de se tenir informé de l'état de la chimie, c'est-à-dire de dire, là, on est dans des domaines où l'évolution technique est très, très rapide. C'est vrai pour les armes biologiques, c'est vrai pour les armes chimiques, mais chaque fois, il faut tenir compte de nouveaux dangers, de nouveaux produits encore plus létaux que les précédents, de nouvelles techniques de fabrication, de nouvelles possibilités de dissimulation d'une fabrication, parce qu'il y a effectivement des armes chimiques où il suffit d'avoir deux produits l'un à côté de l'autre qui ne sont pas dangereux tout seuls, indépendants, en avant l'un de l'autre, et quand on les rassemble, ça devient une arme. Et donc, effectivement, il faut avoir... C'est un œil de limier chimiste, c'est vraiment un travail d'enquête très pointu qui peut être fait par des gens très, très forts déjà, très bien formés à la chimie, et qui se tiennent au courant de tous ces développements. Bon. Donc, il existe aujourd'hui, et c'est le seul cas, donc dans des conventions destinées à éviter l'utilisation des pires armes, l'organisation de contrôle des armes chimiques. Alors elle fonctionne, mais l'expérience qu'on en a n'est pas très convaincante, en ce sens qu'on s'est aperçu que c'était gênant, toujours pareil, pour l'impérialisme, c'est assez gênant, c'est-à-dire il y a des gens, parce qu'on peut accuser, alors je me fais référence à des événements qui ont eu lieu pendant la guerre de Syrie, qui n'est pas finie en plus, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de manipulation de l'opinion qui s'appelait les casques blancs, qui ont décidé de dire que le régime, donc le gouvernement syrien de Damas, présidé par Bachar el-Assad, avait utilisé des armes chimiques contre sa propre population, ce qui était une drôle d'idée en particulier. Bon. Et donc, en fait, la campagne médiatique est extrêmement forte. Et ça y est, Bachar el-Assad a encore fait... Alors, tout lui a été imputé. Elle a encore utilisé des armes chimiques contre sa propre population. Il faut une enquête. Et l'enquête a lieu, puisqu'il y a un organisme qui est chargé de ces enquêtes-là. Les inspecteurs, donc mandatés par l'organisation de contrôle des armes chimiques, viennent en Syrie, et puis ils vont voir partout, et ils disent « ben non, on n'a pas trouvé ». Et ce que fait la Syrie à ce moment-là, c'est qu'elle adhère à cette convention en disant « moi, je décide, j'avais des armes chimiques, je décide de m'en débarrasser ». Et donc, les inspecteurs viennent, regardent les stocks, voient que ça n'a pas été utilisé, et donc l'accusation ne tient plus. Ce qui se passe, et c'est un peu retard à comprendre parce qu'on est en termes de droit, c'est-à-dire que là, la Syrie n'a pas violé le droit, elle s'est mise en règle puisqu'elle a adhéré à la Convention et elle a livré tous ses armements chimiques qui ont été emmenés sur un bateau américain, parce que... Curieusement, les États-Unis avaient un bateau pour brûler en mer tous les produits chimiques syriens. Oui, en mer. Ils sont venus les brûler au large de la Sicile. Bon, alors ça peut-être... oui, ça s'est fait. Bon. Mais ils y avaient pensé. Ils avaient l'installation, enfin le navire ad hoc. Bon. Ce qui se passe, c'est très intéressant pour comprendre les rapports entre le droit et l'impérialisme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les États-Unis font pression sur la direction de cet organisme de contrôle des armes chimiques pour que la direction désavoue les experts qu'elle a envoyés elle-même sur place. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on interdit la publication du travail des experts. Et donc, la Syrie continue à avoir, dans l'opinion publique, continue à avoir tort, hein, alors qu'elle n'a plus rien. Enfin, donc, vous voyez, à différents niveaux, alors soit c'est la convention sur les armes biologiques, quelqu'un peut se plaindre, et puis après il y a une enquête, mais ça n'aboutit pas, ou alors il y a des échanges d'experts, ça dure des mois et des mois et des mois, et on ne sait rien. Et quand, par exemple, c'était en train d'arriver ces dernières semaines, la Russie arrive à l'ONU en disant « Eh bien, j'ai trouvé quand même un certain nombre de laboratoires qui faisaient de drôles de choses sur le sol ukrainien dans les provinces du Donbass ». Bon, on accepte, on les laisse parler au Conseil de sécurité, et puis il n'en sortira rien du tout. Hein. C'est-à-dire que ça n'a pas d'importance, parce qu'il n'y a pas de possibilité de sanction. C'est-à-dire que le secrétaire général de l'ONU ne peut pas dire, ben, il a été constaté qu'effectivement, les États-Unis, signataires de la Convention sur les armes chimiques, avaient violé cette convention, donc ils sont condamnés à ceci ou cela. Il n'y a pas de sanction prévue. Donc on a un espèce d'appareil juridique très spectaculaire et qui fait vivre des milliers de techniciens, de juristes, etc., pour savoir ce qui se passe. Mais en fait, ça ne produit pas d'effets concrets, c'est-à-dire que ceux qui ont décidé de faire des armes biologiques, et il y a beaucoup de gens qui en font encore ou qui sont en capacité d'en faire, peuvent le faire quasiment impunément. Avant, il suffit de pas vu, pas pris, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça.
Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut obliger à créer des sanctions. Je veux dire, il n'y a pas un organisme qui peut...
Alors, il faudrait que la Convention s'auto-réforme, c'est-à-dire qu'on mette tous les signataires autour de la table, qu'on dise maintenant ça ne va plus, on est insuffisant, on n'est pas à la hauteur du risque et du danger couru par l'humanité, il faut qu'on mette des sanctions. Et à ce moment-là, il suffit qu'il y en ait un qui s'oppose pour dire... Alors, à ce moment-là, moi, je sors, hein, j'y vais pas, hein, débrouillez-vous entre vous. Hein. Alors, on a des tas qui sont... Alors, par exemple, l'État d'Israël a signé... Alors ça, c'est le sommet. Je le gardais pas pour la fin, parce qu'on a encore quelques minutes. L'État d'Israël, en 1948, signe la Convention internationale contre le génocide sikh. Bon, alors... Il faut se remettre en 1948. Ils viennent de créer leur État israélien, de la façon dont que je vous ai décrite. Et en fait, ils savent qu'effectivement... Ils savent quand même, parce qu'ils ont réfléchi, même s'ils étaient, la majorité d'entre eux étaient déjà sur le sol palestinien, comme Ben Gurion par exemple, ils n'ont pas fait la guerre, hein, ils ont échappé à la guerre, mais ils savent très bien ce qui s'est passé dans les camps d'extermination, ils savent ce que c'est, hein, et puis ils le disent. Hein, bon. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « bon oui, ça s'est passé, mais au fond, nous, le génocide, on est contre, parce qu'évidemment, on ne peut pas être pour le génocide, donc on signe ». Alors, à la date d'aujourd'hui, Israël est encore signataire de la Convention sur les génocides. Bon. Alors là, c'est là qu'on se dit, mais ce droit international, il a quand même des limites, parce que après 2 mois de bombardement de Gaza, hein, ils sont signataires d'une convention sur le génocide et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et là, on se met à se dire, alors, on a tort de le faire comme ça, parce que c'est lourd, la justice internationale, il y a beaucoup de monde, il faut travailler dans plusieurs langues, etc. Mais on se dit, mais attendez, ce genre d'affaires, vous le faites, vous, citoyens français, il y a ce qu'on appelle, on appelait avant les flagrants délits, ou la comparution immédiate. Hein. Ce n'est pas un génocide, ce que vous êtes en train de faire. Bon, allez, bon, je prends tout de suite, alors, je rêve devant vous. On prend M. Benjamin Netanyahou, hein, on le met aux arrêts, puis on dit maintenant on va instruire ton procès, on ne va pas de vengeance et tout, mais tu as signé la convention pour le génocide, et qu'est-ce que tu es en train de faire? Prouve-nous le contraire. Mais effectivement, ce n'est pas du tout, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu dans la convention sur le génocide. Alors on en arrive, alors vous voyez, donc cette armature, donc les conventions de Genève qui règlent surtout la question des combattants, que ce soit des combattants, donc des armées régulières, ou maintenant ça a été agrandi du fait des luttes de décolonisation aux combattants des luttes de libération nationale, là on a un vrai progrès, mais il ne s'agit que de combattants. Les conventions qui essayent de limiter l'usage des armes les plus horribles, hein, donc armes de destruction massive, alors vous voyez, là aussi, ironie, et triste ironie, ironie épouvantable du sort. Quand vous voyez Colin Powell agiter son tube à essai devant le Conseil de sécurité de l'ONU, vous dites, toi qui as signé la convention sur l'utilisation des armes biologiques, tu sais très bien qu'il n'y a que de l'eau dans ton tube, hein, tu sais, hein, et tu oses dire qu'il y a des armes de destruction massive, alors que les propres experts que l'ONU va envoyer en Irak diront qu'il n'y en avait pas. Mais ça, tu ne voulais pas le savoir, parce que de toute façon, toi, ça c'est une des conclusions que je tire déjà avant la fin de l'émission, les États-Unis ne veulent pas savoir qu'il y a des sanctions, ne veulent pas être contraints par des règles qu'ils essayent d'imposer aux autres, et donc ils ont décidé de détruire l'Irak, ils détruiront l'Irak, point. Et donc il n'y a pas d'armes atomiques en Irak, il n'y a pas d'armes chimiques en Irak, il n'y a pas d'armes biologiques en Irak, ça c'est les experts qui le disent. Mais pour les États-Unis, ce n'est pas vrai, il faut faire tomber le régime irakien par tous les moyens. Alors c'est le régime et c'est le million de morts irakiens qui va avec. Ce n'est pas simplement l'armée irakienne qui est détruite, c'est le pays qui est détruit et qui s'en est aujourd'hui pas vraiment remis. Ça va mieux, il y a quand même de l'argent lié à la persistance d'une économie pétrolière, mais ce n'est pas un pays indépendant, il est occupé, et c'est un pays qui a été très très abîmé. En plus, on a organisé les divisions et tout. Bon, vous savez, le système colonial existe. Bon. Alors voilà cette architecture. Convention de Genève, les combattants, de toutes sortes maintenant, les conventions sur les armes de destruction massive qui sont délicates et mal appliquées, enfin qui ne portent pas beaucoup de résultats. Et puis il reste le dernier morceau de cet édifice juridique qui est compliqué. Et compliqué parce que les juristes, ça prend du temps avant de fournir des décisions, de réfléchir à un problème et tout. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Et le dernier chapitre de cette coalition du droit contre la guerre, qui est faible au contraire. Enfin, quand je fais le bilan, les conventions sont plus ou moins respectées. Les conventions de Genève, ça se discute, puis il y a beaucoup d'endroits où on dit que ce n'est pas respecté. Donc tout ce qui est considéré aujourd'hui par la justice internationale sous le terme de crime de guerre et crime contre l'humanité relève des conventions de Genève. C'est clair, hein, je vais détailler un petit peu. Mais il reste ensuite la justice internationale. Alors, la justice internationale. Alors là, il faut revenir un peu en arrière. Qu'est-ce que c'est que cette justice internationale ? Alors, c'est vrai que pour la grande opinion, c'est plus clair d'avoir un tribunal qui dit, au vu et au su de l'humanité entière, l'État X ou monsieur un tel président de telle république a décidé une guerre qui a fait tant de milliers ou de millions de morts, hein, et donc il y a un tribunal qui le condamne. Ça, c'est clair pour le peuple. Hein. On dit, voilà, ce monsieur, il a fait des horreurs, hein, il est condamné. Individuellement. C'est ça la justice pénale internationale. Alors, c'est effectivement plus facile à véhiculer. Tous les arcanes de ce que je vous ai décrit sur la façon de tricher avec les conventions, de revenir sans arrêt sur les conditions techniques, etc., ça échappe beaucoup. Et puis, c'est très compliqué à suivre. C'est très compliqué à suivre. Donc, il reste que cette justice qui, apparemment, au point de vue, j'allais dire, c'est peut-être méchant, parce que c'est méchant pour les magistrats, c'est méchant peut-être pour les avocats, mais au point de vue du spectacle public, est un spectacle compréhensible par une grande masse. Vous dites, monsieur un tel, président de tel État, a décidé telle action, et cette action a fait 500 000 morts. Là, et puis, donc ce monsieur, il finira sa vie en prison. Bon, ça, tout le monde le comprendra. Hein. Si vous dites, ça fait 4 ans qu'on discute du danger réel de tels produits chimiques appliqués à des populations, etc., les experts sont en désaccord. Il y a quelques experts qui vont suivre. Vous ne pouvez pas vendre ça à l'opinion mondiale. Donc ce qui est important, la justice, elle arrive là pour dire, ouf, il y a un tribunal, on est dans des pays où il y a des tribunaux, on sait que la justice n'est pas parfaite, mais au moins, dans la majorité des cas, elle dit le droit, elle dit qui a tort et qui a raison. C'est plus vendable, c'est plus compréhensible. Je ne suis pas du tout méprisant, mais c'est très très compliqué de suivre les débats sur les autres aspects que j'ai essayé de juste survoler. Et donc voilà cette justice internationale qui va apparaître. Mais elle ne vient pas de rien. Elle ne vient pas de rien, puisqu'au fond, le premier exemplaire de justice internationale s'est joué à Nuremberg en 1945-1946. C'est là la fondation de cet élément qui est un élément de mise. Oui, je le dis parce que c'est une mise en spectacle des réalités guerrières et des rapports entre puissances. Ce qui se joue à Nuremberg, c'est le fait que les quatre États vainqueurs, hein, je rappelle les États-Unis, l'URSS, la France et la Grande-Bretagne, mettent en accusation le régime nazi pour ce qu'il a fait. Et qu'il soit accusé, c'est évident qu'il doit l'être, puisqu'en fait, il a fait quelque chose d'absolument épouvantable, hein, le racisme exacerbé, des dizaines de millions de morts au cours de ce conflit, et une espèce d'atteinte à la civilisation elle-même. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des bons et des méchants, il y a des sous-hommes et des sur-hommes. C'est une impasse de l'humanité totale. Bon, donc c'est juste que Nuremberg juge ces gens-là. Donc il y aura un jugement, un tribunal, qui va juger la plupart des dirigeants du Reich, ceux qu'on a pu attraper. Hitler, on le sait, s'est suicidé quelque temps avant. Mais il a pris les gros bonnets de la SS, de l'armée, etc. Il y a 18 condamnés, je crois, qui vont l'être à juste titre. Et là, donc, est fondé ce droit des tribunaux à juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes pour génocide. On va en rester là assez longtemps. C'est-à-dire qu'au fond, une fois que ça s'est posé, il n'y aura pas d'autres tribunaux avant une autre période. Alors ça s'explique aussi par le fait qu'on entre dans la période où, en 1946-1947, les États-Unis sont dominants sur le monde. L'URSS a beaucoup souffert, beaucoup plus que tout le monde, et donc elle est en train de panser ses plaies, de reconstruire son industrie, ses villes, ses usines, ses ponts, etc. Elle a énormément souffert, entre 25 et 30 millions de morts, destruction de toute la partie européenne du pays. Elle a d'autres chats à fouetter que se préoccuper de l'évolution. Hein, moi, je l'interprète comme ça, comme une immense fatigue, parce que comment imaginer, enfin, moi, 25 millions de personnes à l'échelle de... C'est comme 5 millions de Français qui seraient morts entre 40 et 45. Comment ressort un pays de ce genre d'épreuve? Je ne sais pas, je ne me permets pas de juger. Je pense que c'est extrêmement douloureux et qu'une société reste marquée pour très très longtemps, et même tous les individus de cette société restent marqués très très longtemps par ça. Donc nous voilà sortis de Nuremberg avec le résultat que vous avez. Là c'est juste, et puis il n'y avait pas de discussion sur ce qu'était la réalité du nazisme. Il y avait pas tout le monde avait vu, et ceux qui n'avaient pas vu, on leur a montré. C'est-à-dire qu'il y a au moment du procès de Nuremberg, la position des accusés nazis, elle est tout à fait claire. Ils plaident non coupables. C'est clair. Hein. Göring plaide non coupable, Keitel plaide non coupable, Heydrich, tous, ils plaident non coupable. Et une fois qu'ils ont plaidé non coupable, puis c'est une forme de justice pour et contre, hein, il y a un pour et un contre, le tribunal leur montre des images des camps d'extermination. Et là, on a affaire à une espèce d'hébétude ou de crise interne de tous ces personnages, qui sont des assassins de millions de personnes, qui voient ces images-là, qu'on leur a peut-être jamais montré, c'est bien possible. Et là, on ne peut pas dire s'ils s'effondrent, mais on imagine qu'il y a une espèce de court-circuit dans leur tête. De toute façon, ils vont être condamnés à être pendus, et ils seront pendus, à l'exception de Göring, qui prendra un cachet de cyanure la veille de la pendaison. Ça, c'est un petit détail de l'histoire. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, on a affaire au meilleur procès possible, puisqu'on a affaire à la condamnation d'un régime qui voulait diviser l'humanité entre les hommes supérieurs et les hommes inférieurs. C'est-à-dire un régime qui emmenait, s'il avait gagné, alors il n'aurait peut-être pas gagné pendant très longtemps, mais il a quand même convaincu des dizaines de millions d'Allemands et d'autres gens à l'extérieur que c'était ça l'avenir de l'humanité. Bon, s'il avait gagné, dans quel état serions-nous tous humain aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Hein. Donc ce coup d'arrêt de Nuremberg, il faut le saluer. Parce que ça a été suffisamment évident qu'il devait être condamné, suffisamment évident qu'il l'avait été en ayant pu se défendre et en ayant pu imaginer Göring plaidant non coupable. Bon, c'est absolument incroyable. Et Göring plaide non coupable. J'ai rien fait. Hein. J'ai pas tué 25 millions de Russes, j'ai pas gazé 6 millions de Juifs. Bon, ils le disent. Ils sont sûrs d'eux. Alors ils sont sur deux parce que ce sont pour la plupart des grands bourgeois, hein, c'est pas des hommes du peuple qui sont venus là, ce sont de grands bourgeois avec une culture et qui sont là parce qu'ils ont considéré que c'était la façon pour l'Allemagne de devenir le maître du monde. C'était bien ça. C'est-à-dire c'est le même rêve que le rêve des États-Unis, mais là qui a échoué. Et donc c'est le rêve allemand qui est tué par le rêve américain. Mais le rêve américain de domination, il est toujours là. Et il va rester. Et donc, il n'y aura pas de nouveau procès avant une autre période qui est assez différente. L'autre période, ça se passe après 1990. Alors, pourquoi il n'y a pas d'autre procès? Parce que après, il y a une espèce qu'on a appelée l'équilibre de la terreur, qui était le fait l'équilibre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, qui fait que bon, il ne pouvait pas se passer grand-chose de très, très grave et de très dramatique. Mais à partir de 89, 90, et puis c'est tout à fait clair au moment où Clinton arrive à la présidence, les États-Unis se disent, ça y est, il n'y a plus personne en face de nous. Et à ce moment-là, pourquoi se compliquer la vie avec des guerres, etc. ? Il n'y a qu'à faire des procès à tous les gens qui nous dérangent. Hein ? Et donc fabriquer des tribunaux pour dire, ben, lui, il a tort, et puis on va mettre à la place, sous-entendu, alors, lui, il a tort parce qu'il a tué des gens, on va mettre à la place quelqu'un qui nous obéit. Hein ? Alors, deux tribunaux internationaux, celui pour le Rwanda, hein, c'est clair. C'est à ça que ça sert. Hein. Et il y en a un autre qui est fabriqué pour le Liban. Ça, c'était un autre aspect des choses. Ah, ça, je vais en parler parce que ça pourra intéresser Noé. Et puis, des tribunaux spéciaux et celui pour la Yougoslavie. Alors, c'est très intéressant de suivre le tribunal spécial pour la Yougoslavie est destiné à justifier le découpage de la Yougoslavie, qui était une fédération d'États, en petits morceaux, de telle façon que ce ne soit pas un opposant de fait à la politique de domination des États-Unis. La Yougoslavie n'était pas, les Yougoslaves s'étaient fâchés avec l'URSS et tout, mais était un pays indépendant qui voulait rester assez neutre, qui était d'ailleurs un des pays fondateurs du mouvement des non-alignés, Bandung, etc. Et ça, pour les États-Unis, à partir de 90, cette position de neutralité est inacceptable. Il ne doit plus y avoir de neutre. Tout le monde doit obéir aux États-Unis, sauf ceux qui sont nos ennemis, c'est-à-dire la Russie n'est même plus d'amis puisqu'elle est en train de s'effondrer économiquement pendant au moins une décennie. La Chine n'est pas encore menaçante, elle n'est pas inquiétante. Donc effectivement, donc on fait la loi, on dit ce pays-là nous dérange un petit peu, donc on accuse ses dirigeants, on fabrique un tribunal spécial, les dirigeants ont tort, et puis voilà, on en met d'autres à la place. Et le découpage de la Yougoslavie a lieu sur ces bases. Et on va voir M. Milosevic arriver devant, alors le président de la Serbie, arriver devant ce tribunal, disant « mais moi je me défends moi-même ». Et en fait, on le laissera mourir au tribunal, je le raconte parce que c'était intéressant, parce qu'il savait tout, puisque c'était lui qui était le président de la Serbie, donc tout ce qu'on pouvait lui imputer, il était en capacité de se défendre. Et à un moment donné, ce monsieur qui était cardiaque a des soucis, et ses médecins disent « il a un vrai problème ». À ce moment-là, la Russie dit au tribunal international et dit aux États-Unis, vous nous l'envoyez, on le soigne et on vous le renvoie après, c'est promis. Les États-Unis, pas question, on le tient, on ne le lâche pas. Et donc on le laisse mourir dans la prison de La Haye. Comme ça, le procès se termine par rien, puisque de toute façon, le principal accusé est mort. Bon. Ça, c'est la période de 90-2000, en gros. La période où les États-Unis se sentent absolument seuls. Et c'est la période pendant laquelle ils vont inventer la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'ils se font une espèce de brouillon avec le tribunal pour le Rwanda et le tribunal pour la Yougoslavie. Et puis ils disent maintenant, on va généraliser le système. Tous les gens qui ne marchent pas droit dans le système états-unien, ils auront droit à un procès. C'est beaucoup plus économique que la guerre. Hein, c'est très bien comme ça. On prend des gens, on dit ce dirigeant-là ne nous convient pas, on en prend un autre, etc. Il finit ses jours en prison, on n'en parle plus. Et donc lancement de la Cour pénale internationale, qui arrive dans ce contexte politique, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin, après tout, on a des armes, on a des soldats partout, mais pourquoi dépenser tellement d'argent pour aller détruire un pays, alors qu'il suffit de ramasser au bon moment un monsieur qui ne vous plaît pas, de le mettre à la CPI, et après, de le finir sa vie en prison, c'est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus économique, et de toute façon, on est chez nous partout, donc ça nous suffit. Donc on a une espèce de gouvernement de police mondiale qui dit, ah, je veux pas, là, il y a une tête qui dépasse, il y a un monsieur qui me plaît pas, je vais l'enlever du milieu.
Oui, mais il faut qu'il crée des guerres dans certains pays pour pouvoir en arrêter les...
Alors en fait, c'est ça l'astuce, c'est que ce monsieur-là, si il a effectivement été opposé, c'est qu'on lui a fabriqué des conflits. C'est ça l'idée. Donc l'intérêt de ce tribunal, c'est d'arriver, quand on a fabriqué des conflits, alors fabriquer des conflits, je relève un peu, fabriquer des conflits, on sait comment ça se fait maintenant. Et puis c'est les dirigeants actuels du Mali, du Niger et du Burkina qui nous expliqueraient ça très bien. Fabriquer des conflits, il suffit de dire, ah là il y a des djihadistes qu'on a financés, armés par ailleurs, qui ne sont pas là du tout pour des motifs religieux. Il y a des djihadistes et donc il faut qu'on intervienne. Et donc Vous faites d'un côté, vous fabriquez des djihadistes, de l'autre côté, vous envoyez des troupes d'occupation, et celui qui ne joue pas le jeu, celui qui dit... Alors, ce qui va, enfin, ça pend au nez des dirigeants actuels du Niger et du Burkina. Ils ont décidé à faire la police chez eux, eux-mêmes, et pas la faire faire par l'armée des États-Unis ou par l'armée française. Bon. Donc, eux, ils vont être mal notés, et ils pourraient un jour aller à la CPI, mais je pense que ça ne se passera pas. Et donc, la CPI sert à ça. C'est une menace en disant, voyez, vous avez, on vous a poussé à des comportements délictueux, dans notre sens à nous, mais vous échapperez pas à notre justice. Parce que la CPI, c'est la justice des États-Unis. C'est bien que les choses soient bien claires. C'est la discipline américaine pour dire ce que je disais tout à l'heure à propos de Nuremberg. Il faut que, pour la grande masse de l'opinion mondiale, un procès, ça doit être simple. Il y a un accusé qui est un méchant, il a fait des méchancetés, il est condamné. Ça, tout le monde comprend. Quand il faut passer des années et des années sur des textes compliqués à l'ONU, dans des commissions, ça n'intéresse pas l'opinion mondiale. Il lui faut du spectacle judiciaire. Le spectacle judiciaire, c'est la CPI. C'est ça qu'il faut bien intégrer. Ça ne veut pas dire que les gens qui croient dans la CPI, il y a des avocats qui passent leur vie pour défendre des cas à la CPI et tout, mais ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur temps, mais ça veut dire qu'ils s'inscrivent dans ce... On les a inscrits dans ce système où il s'agit de donner le spectacle d'une justice internationale. Ce n'est pas la même chose, même s'ils font... Alors, il y a des cas où ça ne marche pas, puisque je suis content que Roselyne soit là. Nous, on a suivi, et elle a suivi en particulier, le cas de l'inculpation et du procès de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, donc président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, se présente aux élections pour renouveler son mandat.
Oui, en fait, il ne voulait pas se présenter aux élections en 2010 parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore désarmé à ce moment-là.
Exactement.
Mais on lui a fait pression pour qu'il se présente,
plus,
pour qu'il fasse les élections, pour qu'il organise les élections.
Parce qu'on lui avait organisé justement une guerre civile chez lui pour, parce qu'on ne le voulait plus, parce que Laurent Gbagbo, il avait quelque chose d'inacceptable. Quand il était devenu président de la République, l'ambassadeur de France à Abidjan lui avait téléphoné en disant « Il faut m'envoyer les ordres du jour du Conseil des ministres ». Et Laurent Gbagbo avait dit, mais attendez, je suis président de la République de Côte d'Ivoire, je n'ai pas à vous envoyer les ordres du jour du Conseil des ministres. La République de Côte d'Ivoire est un pays indépendant, je ne suis pas un sauvage, hein, j'ai fait des études, hein, je suis historien, j'ai des diplômes, etc. Qu'est-ce que c'est vous envoyer, hein, bon. Et donc, ça avait beaucoup déplu. On dit, oh, ce monsieur-là, alors, tout tranquille qu'il était, cultivé qu'il était, tolérant qu'il était, il devait disparaître de la circulation.
Voilà.
Ben, c'était exactement ça. Et donc, ce monsieur-là, on lui a fait perdre les élections présidentielles de 2010. On lui a fait perdre. Alors, on lui a fait perdre parce que j'insiste sur le fait, et là, c'est aussi à la charge de l'ONU, c'est le représentant de l'ONU à Abidjan qui a déclaré les résultats de l'élection présidentielle. Ça ne s'est jamais vu. L'ONU n'est pas là pour ça. Ça ne fait pas partie de sa mission. Mais comme les résultats avaient été trafiqués, une fois que l'ONU avait dit « c'est les résultats, c'est ça », l'opinion mondiale s'en satisfaisait. Bon. Après quoi, donc, M. Gbagbo est extirpé de son palais présidentiel, puisque, soi-disant, il a perdu.
Oui, enfin, il avait été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel.
En plus, voilà, non, mais...
Et Ouattara s'est auto-proclamé grâce à Ban Ki-moon, à la même date, c'est-à-dire le 4 décembre 2010.
Là, l'ONU est totalement coupable. Donc, M. Gbagbo, il est enlevé. Il va passer 6 mois, pas dans un cul de basse fosse, mais dans un petit appartement quelque part, dans une ville du Nord. Et puis, un jour, il va être enlevé et il va se retrouver à La Haye, comme inculpé, alors, de tout, crime contre l'humanité.
Excuse-moi, il avait été emmené à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, sans aucun chef d'accusation.
Oui,
il est resté pendant 6-7 mois, et le 30 novembre, ils l'ont déporté à La Haye.
Allez, c'est après qu'on dit, alors, crime contre l'humanité, crime de guerre, il n'y a pas été question de génocide. Et donc, il se retrouve un beau jour dans les prisons de la CPI, donc on est en 2011, où il va rester 9 ans. Parce qu'entre 2011 et 2016, on instruit son dossier, c'est-à-dire on l'a pris. Ça, c'est bon, c'est une belle prise, mais après, qu'est-ce qu'on lui met sur le dos? Alors, il faut inventer des choses, il faut trouver des témoins.
Et puis, peut-être aussi revenir sur le fait que Laurent Gbagbo avait déclaré la compétence de la CPI en 2003, mais il n'avait pas adhéré au statut de Rome, ce que Ouattara a fait en 2013, alors que Gbagbo était déjà à la CPI. Et ce n'est qu'à partir de là qu'ils ont commencé à vraiment instruire son dossier.
Donc là, il a fait de la préventive, comme on dirait dans le langage de tout le monde, de 2011 à 2016. Donc son procès commence en 2016. En attendant, on accumule les preuves pour dire que c'est un méchant. Hein. C'est tellement pas un méchant que finalement la CPI va être obligée de l'acquitter. non pas de prononcer un non-lieu. Je fais la différence, c'est très, un non-lieu, c'est dire pff, on s'est embarqué sur cette affaire et c'était pas très solide. Non, non, il est acquitté. On lui a mis 3000 assassinats sur le dos, il n'est assassiné personne. Il est acquitté et il sort de là. Il sort de là, mais il a quand même passé dans la prison de La Haye.
Alors, il est acquitté en 2019, voilà. Mais bien sûr, Ben Souda, qui est procureur de la CPI à ce moment-là, fait appel de la décision. Et pendant ce temps-là, alors qu'il a été acquitté, il va être assigné à résidence dans un État qui veut bien de lui, c'est-à-dire la Belgique.
La Belgique.
D'où il partira uniquement en mars 2021. C'est-à-dire qu'en tout, il aura passé 10 ans hors de son pays. Et c'est ce qui était vraiment voulu par...
Par les autres, voilà. Par le camp, donc le camp occidental. Hein, il faut rappeler que M. Alassane Ouattara a été quand même haut fonctionnaire à la Banque mondiale et qu'il était le candidat des États-Unis. Et de la France subsidiairement, mais surtout le candidat des États-Unis. C'était ça. Donc Gbagbo dérangé et la France et les États-Unis, c'est tout à fait clair. Donc voilà les limites de la CPI.
Mais j'ajoute autre chose, qu'à l'époque, c'était Moreno Ocampo qui était procureur de la CPI, le premier procureur, puisque la CPI est née en 2002.
Tout à fait.
Et que Ouattara, qui s'en défendait, avait rencontré à plusieurs reprises Moreno Ocampo avant que Gbagbo ne soit envoyé à La Haye.
Voilà. Alors, monsieur, alors le procureur de la CPI, c'est un personnage central, puisque c'est lui qui va décider de donner suite à des plaintes ou à des informations qu'il a reçues sur tel ou tel personnage, et qui accumulera donc les preuves pour montrer que ce monsieur doit passer en jugement, puisqu'après, il y a des juges. Alors, ce procureur-là, monsieur Ocampo, qui était un argentin, juriste argentin, n'a pas laissé de très très bons souvenirs. Il a été remplacé par une ministre gambienne qui s'appelait Fatou Ben Souda, qui elle-même avait été ministre dans un gouvernement qui avait eu des ennuis avec la justice internationale aussi, bon, passons là-dessus, et qui maintenant a été remplacée par un monsieur qui s'appelle Karim Khan. Alors je m'arrête sur le personnage parce qu'il est central pour la suite des événements aujourd'hui sur le territoire palestinien. Karim Khan est un citoyen britannique, fils d'un médecin pakistanais d'origine et d'une citoyenne britannique. D'un juriste, il a les bonnes formations qu'il faut et tout. C'est pas un juriste tout à fait comme tout le monde, parce qu'il a quand même été conseiller particulier de Sa Majesté la Reine Elisabeth pour les questions juridiques. Ça n'a pas arrivé à tous les magistrats du Royaume-Uni. Monsieur Karim Khan a d'abord fait sa carrière comme avocat dans des cabinets spécialisés et a défendu ici et là, devant des juridictions internationales, celle pour le Liban, que j'ai évoqué tout à l'heure, celle pour le Rwanda, celle pour la Yougoslavie aussi. Enfin, il a vraiment un vrai métier, un acquis professionnel en tant qu'avocat pour défendre des gens qui étaient inculpés devant ces tribunaux-là. Et en particulier, son intervention au Kenya a été très particulière puisqu'il a défendu un personnage qui est aujourd'hui président de la République au Kenya, M. Ruto, c'est très intéressant à noter, parce que ce personnage donc, était impliqué dans toute une série d'affaires très très douteuses, et ce personnage, M. Ruto, je le situe, c'est quand même le premier chef d'État que le roi Charles III est venu rencontrer en Afrique, c'est-à-dire c'est un allié très très important et très fidèle du royaume britannique. C'est pas tout à fait neutre, ce voyage-là. Bon. Et ce monsieur Khan, je vais revenir à la situation beaucoup plus concrète, a fini par être élu procureur de la République, procureur de la CPI. Alors, c'est une innovation en ce sens que jusqu'à présent, puisqu'il y a ce qu'on appelle les États-partis, les États qui ont décidé de faire partie de la CPI, à l'exception des États-Unis, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire les États-Unis mettent des outils pour leur domination, mais se tiennent à l'arrière de la domination, c'est-à-dire la CPI, c'est pas eux. C'est eux qui ont lancé l'idée, c'est Clinton qui a fait campagne pour dire c'est bien la CPI, qui a fait signer toute une série d'États, les Européens, etc. Tout le monde s'est rué sur la CPI. Clinton a signé, alors je le signale parce que c'est très très intéressant, Clinton dans les dernières semaines de son mandat, sans que ce n'est pas très facile à faire accepter par l'opinion des États-Unis, il va finir son mandat et il signe au dernier moment, il ratifie l'adhésion des États-Unis à la CPI. Bush le remplace à la Maison-Blanche. Dans les semaines qui suivent, les États-Unis décident de se retirer de la CPI. Donc annulent la signature de Clinton. Là, c'est très très intéressant à savoir, parce que l'argument, c'est de dire, c'est dans un discours, un papier de Rumsfeld que j'ai sous les yeux, Rumsfeld, qui est le secrétaire d'État à la Défense, dit « Oui, mais ça veut dire que nos soldats où qu'ils soient, il y en a partout des soldats détenus, pourront être inculpés de crimes de guerre. Eh bien oui, s'ils en font, bien sûr. Mais ils en ont fait tout le temps depuis 1945. Ils sont inculpés de rien devant aucune juridiction. Et ça, Rumsfeld dit, c'est surtout pas possible, donc c'est fini, les États-Unis et la CPI, c'est le grand divorce. Donc la CPI, c'est bon pour le menu frontin, c'est bon pour les petits pays africains, c'est bon pour le Liban, c'est bon pour les... Mais c'est tout, nous, on n'est pas intéressés, et on est au-dessus de ça. Oui, on est au-dessus de ça, parce que nous sommes dominants. C'est ça qui est très important à intégrer dans nos têtes. Ce monsieur Karim Khan, bon, j'insiste sur le personnage. Donc les autres étaient arrivés, les États qui sont membres de la CPI avaient discuté entre eux. Il y avait eu ce qu'on appelle un consensus, c'est-à-dire les 130 États qui ont signé la CPI disaient, ben voilà, on nous a présenté différents candidats, on s'est mis d'accord sur monsieur Ocampo d'abord, sur madame Bensouda ensuite. Et là, au moment où Karim Khan arrive dans les candidatures, il y a division et il y a impossibilité de s'entendre. Parce que ça vient du fait que les pays africains en particulier disent « Oui, mais c'est bien joli, la CPI, ils l'ont dit, et je reprends leurs propos. On n'accuse que des Africains. Il n'y a que des Africains qui font des horreurs. Et les autres, alors, qu'est-ce qu'ils font ?» Bon. Et il y a tout un mouvement au sein des pays africains qui est mené par le Sénégal de l'actuel président Macky Sall et quelques autres, dont les Kenyans, pour dire « Non, 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 il faut que l'Afrique soit partie dans le CPI parce que comme ça, ça nous permet d'éliminer ce qu'on n'aime pas. Hein. » Ils ont bien compris le jeu, aussi bien Macky Sall que Ruto et Jomo Kenyatta de l'autre côté. Et donc il y aura une campagne, qui sera une vraie campagne électorale pour imposer Karim Khan, parce que Karim Khan, dans une première expression des États partis à la CPI, avait été refusé. Il n'était même pas candidat. Il y aura donc une campagne intense de coulisses pour qu'il revienne donc dans les candidats, pour être finalement élu avec une courte majorité, procureur plutôt de la CPI. C'est le premier cas dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on a un candidat, donc qui est le candidat de Sa Gracieuse Majesté britannique, donc du clan anglo-saxon, hein, qui connaît très très bien tous les rouages, qui connaît très bien comment on peut détourner l'attention d'un tribunal, et qui se trouve en fait arrivé là exactement au moment où nous nous trouvons, au moment où effectivement Israël commet un génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est ça qui est en face de nous. Alors ça ne veut pas dire que je critique. Alors il y a un certain nombre d'avocats qui disent qu'il faut absolument que les accusations qu'on peut porter, qui sont tellement évidentes contre l'État israélien aujourd'hui qu'on peut porter, il faut les porter jusque devant la CPI. Je dis oui, bien sûr, faites-le. Il faut essayer de le faire. Mais n'ayez aucune illusion sur la volonté de M. Karim Khan de faire avancer les dossiers. Peut-être il acceptera des plaintes, mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Palestine, entre-temps, ce qui est juste ce qu'elle a fait, elle a adhéré à la CPI donc, il y a 4 ou 5 ans. Maintenant, c'est les plaintes, les plaintes de la Palestine sont recevables. Israël ne l'a pas fait, mais les actes des dirigeants israéliens peuvent être attaqués par des Palestiniens. Ce qui est dangereux, et je finis là-dessus puisque c'est exactement l'heure, ce qui est très dangereux, c'est que à la suite donc du début des bombardements de Gaza, M. Karim Khan est venu, je mets ça entre d'énormes guillemets, sur le terrain. Où est-ce qu'il est allé ? Il est allé à Tel Aviv. Il est allé à Tel Aviv, il est allé rencontrer les familles des gens qui avaient des prisonniers à Gaza ou des gens qui, soi-disant, avaient perdu quelqu'un dans les événements du 7 octobre. Alors vous savez que sur les événements du 7 octobre, il y a un doute de plus en plus profond qui est en train de pénétrer et ça commence à arriver même dans nos médias à nous pour savoir exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Et en fait, quand on a dit que c'était les horreurs du Hamas, on n'en sait rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu des vrais combats. Les combattants donc, palestiniens sont allés dans des zones où il y avait des soldats palestiniens. Il y a eu des soldats palestiniens tués. Il y a probablement un général israélien qui est en prison quelque part dans les prisons du Hamas. C'est bien possible. Mais ce n'est pas du tout l'aspect simplificateur. Ça a été horrible, les bébés décapités. Enfin, on est dans un océan de mensonges. Et en fait, M. Karim Khan, qui n'était pas tenu de le faire, alors que les plaintes viennent d'être déposées. Il est allé à Tel Aviv, il a rencontré le gouvernement israélien et il est allé consoler les familles israéliennes. Il n'a fait que ça. Alors après, on lui a dit quand même, il faudrait manifester un petit peu de pitié, de condescendance pour les Palestiniens. Alors, il l'a fait, il est allé sur le sol égyptien, il est allé devant la porte de Rafah, et il a dit, c'est quand même dommage ce qui se passe. Hein. Voilà. Alors ça, ce monsieur comme procureur, je considère que c'est un danger pour la population palestinienne et c'est une image fausse qu'on est en train de nous mettre dans la tête sur les possibilités de travail de la CPI sur ce dossier-là. Le crime de génocide, alors l'Israël, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est confondant, Israël est un des premiers États qui a signé la Convention sur le génocide. Alors ils l'ont fait en 1948 parce qu'effectivement, les Juifs de l'époque savaient ce que c'était qu'un génocide. Ils sortaient des camps d'extermination, ils sortaient d'Auschwitz, etc. Tout ça, ils le savaient. Bon. Qu'ils soient encore aujourd'hui signataires de la Convention sur le génocide et que personne ne dise « mais c'est monstrueux cette position, vous êtes en train d'en commettre un alors que vous avez signé », c'est stupéfiant et M. Kahn n'a pas dit un mot là-dessus. J'attends encore les positions de M. Kahn. Il pourrait dire, ils ont quand même signé cette convention, le mot n'a pas été prononcé, il ne faut surtout pas le dire, alors qu'en fait, le génocide, il est sous nos yeux. Voilà ce que je voulais dire, c'est très très rapide.
Juste vas-y. Dire, Laurent Gbagbo a toujours dit qu'il était rentré à la Cour pénale internationale pour des raisons politiques, il en est sorti pour des raisons politiques. La Cour pénale, c'est une cour politique.
Politique, voilà. Alors, on peut aussi faire un commentaire terminal là-dessus. Il faut savoir qu'on a mis 3000 morts dans des combats de rue sur la charge de Laurent Gbagbo, président sortant. Bon. Alors, ces 3000 morts, ils sont réels, mais il y en a sûrement beaucoup plus. Hein, parce qu'il y a eu, effectivement, pour le chasser du pouvoir, il y a eu de grosses émeutes qui ont été orchestrées. Bon. Alors, il serait normal aujourd'hui que la Cour pénale internationale dise « Mais moi, on m'a posé des plaintes pour ces 3000 assassinats. Il y a bien quelqu'un qui les a organisés, ces 3000 assassinats. » Bon. Donc, c'était pas lui, puisque moi, je l'ai acquitté. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Et là, il se trouve que la Cour pénale internationale devient, alors l'expression est vulgaire, un peu molle du genou. C'est-à-dire, bon, on n'est pas pressé. Alors, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, un rassemblement d'Africains et d'Ivoiriens à La Haye. En disant, mais alors, les 3000 morts, on n'en parle plus, il n'y a plus de poursuites, c'est pas grave. Alors, c'était grave quand c'était lui qui était soi-disant le fautif, et maintenant que ça doit être quelqu'un d'autre, puis c'est pas lui, il y a quand même, ces morts, ils sont là, il y a des familles qui ont porté plainte. Bon, eh bien, on ne cherche plus. Alors, cette Cour pénale internationale-là, elle a une crédibilité extraordinairement faible. Alors, je m'en excuse auprès de ceux qui tentent des plaintes, et ils ont raison de le faire, hein, mais c'est très, très difficile, au point que beaucoup d'organes de défense des droits de l'homme dans les pays arabes, et en Palestine en particulier, disent « mais cette juridiction est politique, elle n'est que politique, et donc il n'y a rien à en attendre ». Et en fait, c'est une espèce de conclusion sur l'ensemble de l'exposé que j'ai pu faire, c'est-à-dire que la justice est toujours en retard, la justice est une construction lente, compliquée, pénible et tout, elle est toujours en retard par rapport aux faits. C'est-à-dire il n'y a pas aujourd'hui une juridiction et des textes qui permettent de dire ce que je disais tout à l'heure. Monsieur Netanyahu, on va le prendre à l'aéroport, lui, maintenant on te garde, hein, t'es en garde à vue, et on va procéder à des interrogatoires. Le flagrant délit, ça n'existe pas dans ces juridictions. Pourtant, le flagrant délit, le monde entier là sous les yeux. C'est ça que je voulais dire pour continuer. C'est-à-dire le droit sera toujours en retard sur la violence impériale parce qu'il y a à la tête de ce sommet impérialiste un pays qui veut faire ce qu'il veut, qui ne respecte rien. L'ONU va beaucoup en souffrir, on peut terminer là-dessus, je dépasse un peu l'horaire, l'ONU va beaucoup en souffrir parce que l'ONU, donc, qui est assise sur une charte qui est de qualité, où il y a tout ce qu'il faut pour que l'humanité soit heureuse, l'ONU s'est laissée trop longtemps. Alors, la liste des résolutions de l'ONU sur les exactions israéliennes contre la Palestine est pas infinie, mais c'est des dizaines. Ça n'a jamais été appliqué. C'est-à-dire que depuis 1948, le viol de du vote de 1947 pour le partage, le viol qui commence dès 1948, n'a jamais cessé. Il n'y a jamais eu la moindre poursuite, la moindre menace de quoi que ce soit. Donc l'ONU s'est fait promener, a été écrasée par l'Empire américain, avec son allié israélien. L'ONU va peut-être beaucoup souffrir de la situation actuelle, c'est-à-dire que sa crédibilité est extraordinairement affaiblie. Il en sortira probablement autre chose. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire est en train de se faire. Elle se fait sur le sang des Palestiniens. Il faudra bien qu'elle débouche sur quelque chose qui ne ressemble pas au tribunal de Nuremberg où finalement l'accusé serait celui qui a organisé tous les crimes depuis 1945. Et on sait qui c'est. Parce que Hiroshima, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide. Alors, c'est pas un génocide parce qu'il n'y a que des civils qui ont été tués. C'était pas un acte de guerre, ça a été reconnu. Nagasaki, c'est pas un acte de guerre, c'est un crime contre l'humanité, c'est l'évident. Jamais aucune poursuite. Il y a eu une réunion du G7 cet été à Hiroshima même, on a mis des fleurs sur des tombes. Jamais on n'a parlé de la responsabilité, parce que les États-Unis n'ont pas de responsabilité. C'est normal, ils sont les maîtres du monde. Jusqu'à nouvel ordre, je continuerai pas plus loin. Et le nouvel ordre se fait tous les jours sous nos yeux. Merci Sidi, merci de votre attention, merci Roselyne d'être venue avec moi. Noé, bonsoir.
Et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés. Jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait tout.